Je vous propose de passer un moment avec celui que j'imagine vous êtes nombreux à avoir vu dans ce documentaire sur Netflix, aussi dans TPMP avec Hanouna, ce Raélien, Philippe Levaux, donc, qui a défrayé vos écrans sur Netflix, notamment la série sur Raël. Merci Philippe Levaux d'être avec nous. Tout d'abord,
Bonjour.
depuis quand, vous êtes un proche de Raël, depuis quand le connaissez-vous et à quel point vous le connaissez bien?
Et je connais Raël depuis 1976. Et attendez, je vais mettre le son autrement.
On vous entend bien, on fait les réglages ici, pas de problème.
Ok, parfait. Donc j'ai connu Raël personnellement en août 1976, quand je suis arrivé à un petit village qui s'appelait La Nègrerie. Et il habitait dans une maison qui était un ancien logis des Templiers.
Et donc, comment c'est, est-ce que vous pouvez nous raconter le premier contact? Parce que ça, vous le dites pas trop dans le documentaire. J'imagine que vous avez été filmé un certain temps et que le montage exclut certaines choses.
Ah oui, dans le documentaire, c'était 7 h 30 d'interview
7h30. Ah oui,
avec
quand même.
une très grosse équipe, hein. Ce sont d'excellents professionnels chez Netflix et surtout la société KPM avec Antoine Baldassarri et Alexandre Ify qui vraiment connaissaient leur sujet, ce qui était très rare pour nous d'être interviewés avec des personnes qui connaissent le sujet, qui l'ont étudié avant. Donc c'est un documentaire. Et donc quand j'ai connu Raël, je suis arrivé à la Nègrerie et j'ai d'abord rencontré le tout premier des Raéliens qui l'a aidé et qui était avec lui déjà à ce moment-là, c'était Jean Gary. Et j'ai attendu que Raël arrive parce qu'il mettait ses poules au poulailler pour les protéger parce que c'était la nuit qui allait tomber. Donc il était en même temps en pleine nature et il était parfaitement naturel, si je puis dire.
Voilà, donc j'imagine que ça vous a mis en confiance. Vous étiez quelqu'un qui s'intéressait déjà au phénomène OVNI, puisque c'est le cœur du documentaire Raël, le prophète des extraterrestres. Et là, c'était une croyance, c'était quelque chose qui vous parlait depuis longtemps?
Alors en fait, moi je ne m'intéressais pas au phénomène OVNI en tant que tel. Pour moi, c'était évident qu'on n'était pas seul autour de notre planète et qu'il y avait des extraterrestres. Donc je me suis souvenu que quand j'avais 18 ans, je me rappelle que c'était un endroit où il y a trois vallées qui se croisent dans les Ardennes en Belgique et j'avais émis le souhait qu'ils viennent. Donc il y avait une espèce d'intuition qu'on pouvait être en relation avec les extraterrestres et leurs engins. Je n'ai jamais imaginé qu'un engin ne puisse pas être, comment dirais-je, l'expression de la volonté de personnes qui sont comme des humains. Pour moi, ça m'a toujours paru complètement naturel.
Une question par rapport à votre passage aussi bien dans TPMP que dans ce documentaire Netflix qui a cartonné en audience. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que parfois on vient vous parler? Comment
Oui.
vous avez pu percevoir une évolution des personnes que vous ne connaissez pas?
Oui.
Ou peut-être aussi au sein familial, est-ce que vous avez des retours?
Alors, les personnes que je croise dans la rue ou dans d'autres lieux publics, il y a beaucoup de bonhomie et beaucoup de gentillesse. Je pense que notre société est en train d'évoluer. Alors, évidemment, c'est minoritaire, mais c'est une minorité grandissante. Donc, il y a une gentillesse, un intérêt. Et par rapport au fait que je suis raélien depuis 48 ans et que je me suis parfois, comment dirais-je, j'allais dire coltiner des questions de niveau très très médiocre, là plus jamais. Je n'ai que des bons contacts et quand je parle avec certaines personnes, ce sont des questions de très haut niveau. Il y a quelque chose qui est en train de changer.
Est-ce que les contacts donc sont plutôt positifs? Est-ce que les gens vous reconnaissent? Est-ce que vous percevez que les gens vous reconnaissent
Oui,
immédiatement? D'accord.
il me sourit. Il y en a qui me saluent un peu comme ça. Comme, vous savez, quand on connaît quelqu'un, on a tendance à le saluer, alors que lui ne nous connaît pas. Bon, mais il est passé dans les médias images, il comprend évidemment qu'on le reconnaît.
Et l'accueil de l'équipe d'Hanouna, parce que c'est vrai que son émission à la fois est une porte ouverte à la diversité quand même d'invités, mais à la fois critiquée parfois sur la scénarisation qu'il
Oui,
utilise avec certains
il met en
invités. Quelle
œuvre.
était votre expérience sur le plateau de TPMP?
Ben, moi, j'avais regardé TPMP, et en fait, c'est une nouvelle émission qui passe le week-end et qui s'appelle Face à Hanouna. Et en fait, on était, je pense, les troisièmes à passer dans ce nouveau format, qui, bien sûr, a les bases de TPMP, mais a une différence, c'est que la personne qui est invitée, ou les personnes qui sont invitées, font vraiment une interview. Donc, il y a moins d'interruptions et le débat est beaucoup plus modéré. C'est plus des personnes qui ont des choses à exprimer et que Hanouna fait en sorte que l'expression puisse se faire de manière relativement posée. Il a même fait un peu d'humour en modérant une de ses intervenantes classiques qui fait très bien son travail, mais qui était un peu trop dynamique en lui disant « Ici, on n'est pas à BFM TV ». Bon, ça, c'est l'humour d'Hanouna. Mais donc, on a été très bien accueillis et ils étaient très surpris, en fait.
Alors une autre actualité donc qui était il y a quelques jours, le 6 avril, un jour pour créer une ambassade. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et vous, est-ce que vous êtes associé à cette opération? Comment ça se passe? Où ce sera? Et quand ce sera?
Alors ça, c'est un vaste sujet parce que, en fait, en quelques mots, pourquoi y a-t-il le mouvement raélien et quelle est la mission du mouvement raélien? Ben, la mission du mouvement raélien, c'est d'aider Raël à répandre les messages. Et notre objectif n'est évidemment jamais de convaincre, hein, c'est le vrai prosélytisme positif, hein, celui qui n'oblige jamais, évidemment, et donc qui donne une information. Et chacun en fait ce qu'il veut à son rythme. Tous les chemins sont respectables, tous les rythmes sont respectables, et l'objectif, c'est de construire une ambassade pour accueillir les extraterrestres, parce qu'on a compris qu'on a été créé en laboratoire scientifiquement grâce à une parfaite maîtrise de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, le génome, comme on dit, ou l'ensemble des chromosomes qui nous constituent. Et on comprend, par exemple, que Jésus était le fruit d'un extraterrestre. Yahvé, en l'occurrence, et d'une terrienne Marie. On comprend que Raël a été emmené, il l'a vécu quand il était emmené sur leur planète, on lui a montré une machine dans laquelle, après avoir mis sans aucune douleur une cellule de son front, il a vu un autre lui-même en sortir, et on l'a expliqué qu'on pouvait être recréé scientifiquement, et que c'était cela l'explication de la vie éternelle, du paradis dont on parle dans toutes les religions, avec des différences suivant les époques.
En fait, ce
Et
serait
donc,
un peu ce dont vous parlez, un peu le clonage amélioré quand même, parce que...
alors le clonage, il y a différentes choses. Quand on fait le clonage d'aujourd'hui, on ne le fait que très peu, mais c'est juste une copie. Par contre, quand on parle de ressusciter scientifiquement un être humain, il y a la copie conforme de son corps et qui est refaite en quelques minutes avec un corps de 10, 17, 20 ans, donc de plein d'énergie. Et dans certaines cellules, dans toutes les cellules de notre corps, il y a la mémoire de ce que nous sommes, mais il y a des cellules privilégiées qui sont situées sur le front, un axe qui joint à 33 mm, enfin, les pupilles d'un être humain. Et donc, dans cet os frontal, il y a toute la vie qui est enregistrée. Alors aujourd'hui, on peut le comprendre, hein, parce que quand on download un ordinateur dans un plus récent ou dans un plus performant, on sait très bien faire ça et ça prend très, très peu de temps maintenant, ça va très très vite. Et donc on comprend qu'on peut être ressuscité scientifiquement et qu'à l'origine notre création était une création de laboratoire et puis ils créèrent l'homme à leur image selon leur ressemblance et donc les êtres humains qui étaient venus sur Terre, qui ont fait toute l'atmosphère, comment dirais-je, toute la nature qui est autour de nous et qui nous permet d'y vivre en harmonie, eh bien ont un jour créé l'homme et la femme bien entendu. Et le premier couple qui a été créé était près de Jérusalem. C'est pour ça que pendant des années, nous avons souhaité que l'ambassade soit près de Jérusalem. Mais après cette demande et cette refus de l'État israélien situé en Palestine, eh bien, nous avons dû nous rendre à l'évidence que ça serait très, très difficilement possible avec ce type de gouvernement. Et donc aujourd'hui, c'est ouvert. Et c'est pour ça que le 6 avril, donc le premier dimanche d'avril, est toujours pour nous la fête de l'humanité, dans le sens plein et entier du terme, c'est-à-dire que l'humanité a été créée en laboratoire et que le premier couple d'êtres humains est né, a démarré sa vie près de Jérusalem, et c'était un premier dimanche d'avril.
Et donc
Voilà.
finalement, ce que vous nous résumez, on se rend compte que le documentaire est assez clair, respecte finalement un résumé assez assez efficace de ce que croient les Raéliens. Après, là, il y a la question, on parlait du clonage, mais la question du clonage, vous, votre sentiment personnel, parce qu'on voit beaucoup Brigitte Boisselier qui a défrayé la chronique, elle a même été reçue au Sénat américain, mais finalement, le clonage pour vous, qui avait été annoncé par Brigitte Boisselier, est-ce que finalement c'était un effet d'annonce pour discuter de la réalité du clonage, de sa possibilité, de sa réalité, des implications sociales, psychologiques et sociétales?
Et il y a quelque temps, moi, je me suis repenché sur la problématique du clonage et tout ce que ça avait suscité en 2001, ou en 2002 plutôt, en décembre 2002. Et j'ai regardé qui étaient les autres personnes qui prétendaient aussi pouvoir faire le clonage. Et quand on voit ce que ces personnes sont devenues, je ne les citerai pas, c'est pas brillant. Quand on voit ce qu'a fait Brigitte, on voit que c'est par amour. D'ailleurs, ça s'entend très bien dans la voix de Brigitte tout au long du reportage de Netflix. On sent qu'elle est remplie d'amour et elle a montré à l'humanité tout entière que le clonage était possible. Et pour dire juste un mot de Damien,
Donc, il était son bras droit et qu'on voit pas mal
que je
dans le
connais très bien,
documentaire.
je le connais très très bien, donc
D'accord.
je l'ai connu tout jeune à 18 ans quand il nous a rejoints. Il a juste oublié qu'il y avait d'autres équipes où il ne s'en est peut-être pas complètement rendu compte. Et on le voit très bien d'ailleurs dans le reportage, l'équipe qui a fait le clonage est en Israël. Brigitte n'était pas là. Ce sont des gens qui avaient des compétences, notamment il y avait des équipes en Asie qui avaient des très très hautes compétences, et que le clonage ait eu lieu à cette date-là ou un tout petit peu plus tard, et probablement à cette date-là, nous, on n'en sait rien, et Brigitte a fait exprès que nous ne le sachions pas
En fait,
pour que
peut-être
les...
par souci de sécurité, à votre avis, il y a eu plusieurs équipes, un peu pour brouiller les cartes et préserver la sécurité des enfants clonés et des équipes qui ont travaillé, qui auraient pu avoir des problèmes juridiques éventuellement.
Oui, on peut le dire comme ça, et surtout qu'on voyait bien que ça commençait, l'Occident n'est plus ce qu'il était, hein, sinon on serait beaucoup plus loin aujourd'hui. L'Occident était ouvert aux nouvelles idées, la chasse aux sectes, ça crée des pertes immenses dans les pays. Si ça se mesurait en produit intérieur brut, je pense que ça nous fait perdre depuis des dizaines d'années maintenant. Entre 1 et 1,5% de croissance, parce que si on se bat contre les idées nouvelles, on contrebat par effet de mimétisme l'ouverture aux nouvelles idées et à l'innovation. Et quand on se bat contre l'innovation, ben, il y a un ralentissement économique. Et donc, on est en plein dans cette problématique-là aujourd'hui, et si on se réouvre aux nouvelles idées, on peut les critiquer, on peut être d'accord ou ne pas d'accord, ça c'est le débat, c'est tout autre chose, c'est la liberté d'expression et la liberté de penser, qui sont des droits fondamentaux, mais que quand ils sont préservés, ça permet à des pays de se développer. Certains gens n'ont pas envie de faire du développement à certaines parties de leur vie, ils ont envie d'en faire à d'autres parties de leur vie, ça les regarde, c'est le rythme de chacun. Mais quand on bloque tout le monde, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, parce que la peur des nouvelles idées et des nouvelles conceptions de qui ont été expliqués dans les anciennes religions, entraînent un énorme freinage au niveau de du développement économique des pays concernés, de l'Occident. Donc Brigitte, quand elle a fait faire le clonage, était vers l'Asie, hein, Israël est en Asie mineure, c'est le carrefour de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, certes, mais ce freinage a fait que, heureusement que Brigitte avait plusieurs équipes, et de toute façon, ce qui était très très important, et c'est le point capital sur lequel je veux insister, c'est qu'elle l'a fait par amour, parce que les autres personnes voulaient le faire par vanité, et elle est compétition, et elle l'a fait par amour. Et évidemment, quand il y a eu le moindre problème pour l'enfant et les parents qui ont fait un effort immense pour pouvoir accueillir chez eux un être humain, ben, dans ce cas-là, elle les a protégés, et nous les avons évidemment protégés en n'insistant pas et en étant tournés vers le développement personnel de cet enfant et de ses enfants, parce qu'il y en a eu plusieurs.
Donc voilà, c'était intéressant puisque vous êtes vraiment, à l'époque d'ailleurs, vous étiez bras droit de Raël quand vous aviez fait les premières conférences, vous me disiez hors antenne, en Israël. Donc, effectivement, c'était intéressant d'avoir votre opinion là-dessus, puisque c'est quand même très long. C'est un des sujets majeurs du documentaire Netflix. On parlait justement, lié à cette actualité de la journée de l'ambassade le 6 avril. Il y a un site dédié, embassy.org, non, etembassy.org, pardon, qui donne des étapes. Et on se rend compte que là, on va quand même savoir si c'est vrai ou pas, parce que les dates avancées, elles sont très proches. Achat du terrain jusqu'à 2027, construction d'une ambassade. Et il y a aussi, en fait, quand on regarde cette vidéo, on se rend compte qu'il y a un Scientopolis aussi à côté. Et on a l'impression que c'est, en fait, le projet, c'est aussi d'une sorte de créer de Las Vegas spirituel. Qui aurait des conséquences incroyables sur le pays ou en tout cas la région qui l'accueillerait, comme est présenté en tout cas le projet dans la vidéo qui est sur ce site ambassai.org.
Ah oui, ça c'est une évidence. Et avec ce que l'on vient de vivre ces dernières années, l'époque Covid et compagnie, on comprend que les budgets scientifiques ne sont pas toujours donnés avec tout le respect qui est dû aux scientifiques et la liberté de communication et d'information et de vérité que cela suppose. Donc, évidemment qu'autour de l'ambassade, les gens viendront et seront naturellement très intéressés et très, comment dirais-je, enthousiastes à l'idée de faire du développement scientifique en étant libres. Il sait que moi, je suis né dans une famille où il y avait des scientifiques. Mon père a déposé des brevets et je connais déjà bien cette problématique. Ça s'appelait le brevet Cochrane en Wallonie où résidaient mon père et ma famille à l'époque, en Belgique. Et quand on quittait la Wallonie, c'était le brevet Levaux. C'était dans l'industrie lourde, dans l'industrie sidérurgique. Donc, je sais combien c'est difficile. Moi, j'ai aussi créé des méthodes. C'est très compliqué d'avoir comment dirais-je, la prise en compte de ce que c'est, parce que j'allais dire le respect, tout ça, mais bon, bien sûr, si on est respecté, c'est bien, mais c'est le respect étymologique, c'est-à-dire que les gens devraient bien regarder ce que cela représente que d'avoir une ambassade dans leur pays et de se rendre compte. Ils vont donner la liberté d'exploiter, de développer des éléments scientifiques, des éléments, et la science n'est pas que la technologie ou que la recherche fondamentale. Il y a aussi la science du développement, la science de l'être humain, la sociologie, toutes ces choses-là qui pourront être développées par l'ouverture aussi que cela induit. Parce qu'évidemment, si on est proche d'une ambassade où sont accueillis des extraterrestres, on a une ouverture d'esprit qui crée un champ bien plus large et donc une exploration beaucoup plus complète d'imagination. C'est-à-dire que l'imagination revient toujours à avoir exploré certaines choses ou certains champs et de faire des synthèses, c'est-à-dire des liens entre des éléments entre lesquels les gens n'ont pas fait de lien. Et quand on a fait ces liens-là, souvent les découvreurs disent que c'était tout simple.
Donc,
Oui.
on pourrait dire un centre scientifique transdisciplinaire avec des liens entre les différentes disciplines et scientifiques. Par rapport aussi à ce qui est traité dans le documentaire, les questionnements, justement, d'une part sur les enfants. Donc, est-ce que. Parce qu'on a un doute dans le documentaire. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont présents lorsqu'il y a des choses de développement personnel avec de la nudité, comme c'est rapporté dans le
Non,
documentaire?
il y a les c'est comme dans
Ou à des
n'importe.
spectacles qui peuvent être avec des danses érotiques, parce que c'est un peu la scène qui est montrée, une danse qui est érotique sans vraiment que la personne soit nue, et c'est où il y aurait eu des enfants. Et alors, c'est vrai qu'il y a la pub dans le métro, l'affichage publicitaire avec des voilà qui utilise
Oui,
aussi
donc, mais
l'érotisme.
ça,
Est-ce
c'est.
qu'il y a réellement là-dessus, quel est votre sentiment par rapport au documentaire? Est-ce qu'il y a des choses induites qui sont
Non, moi je trouve que
très.
le documentaire est très bien fait là-dessus, parce que on voit très bien que les enfants ne sont pas dans les stages proprement dit qui sont réservés à des adultes, comme toute, comment dirais-je, comme dans toutes les religions ou autres. Certaines, il n'y a pas que nous, hein, certains développements, certaines études, certaines informations. Si vous étudiez la Kabbale chez les Juifs ou autres, bah, il n'y a pas d'enfants parce que ce n'est pas de leur âge. C'est tout simple. Donc, par contre, à toutes nos fêtes, à tous les rassemblements et autres, les enfants sont les bienvenus. Ça se passe très bien.
Et
Et c'est un
à
but.
ces rassemblements, il n'y a pas de nudité. Parce qu'en fait, la voix off a l'air de dire que c'est une nudité, et l'image qui est montrée Dans le documentaire, c'est une personne qui danse sensuellement, oui, mais elle n'est pas nue pour autant. Donc c'est pour ça que je
Oui,
voulais avoir
c'est
votre.
très curieux. C'est-à-dire que les. Moi, ça me fait presque rire parce que c'est les mêmes qui vont dans le métro et puis qui vont à République à Paris et la statue qui évoque la Révolution est une femme qui a les seins nus. Et d'ailleurs, on participe à des manifestations où on promeut le fait que les femmes pourraient avoir les seins nus sans choquer personne et que ce soit complètement naturel. Nous, on a été obligés parce qu'on nous a critiqués de façon complètement malveillante, hein, et surtout ceux qui nous critiquaient n'étaient vraiment pas placés pour le faire. Ils faisaient partie de l'Église catholique ou du monde musulman où ils ont beaucoup de choses à balayer devant leur porte. Et donc, hein, les mariages à 9 ans et autres, c'est évidemment totalement inadmissible. Et nous leur avons expliqué que ça, par contre, pour nous, c'était vraiment inadmissible pour les enfants. Et donc, ils se sont tus, hein. Ils ont bien compris que c'était eux qui avaient le problème et que nous ne l'avions en aucun cas et qu'on a un immense respect pour les enfants. Et donc, quand on lit les messages, surtout, c'est le deuxième message, les extraterrestres sont nés sur leur planète, dans le chapitre Les Clés, l'éducation, ben, on comprend qu'on éduque les enfants en leur expliquant, jamais en montrant et encore moins en faisant quoi que ce soit avec eux quand ils n'ont pas l'âge d'être des adultes consentants et éclairés. C'est aussi simple que cela.
Ouais, là c'est intéressant aussi parce que c'est un sujet qu'on a traité et je pense qu'on y reviendra de façon beaucoup plus large, mais c'est les nouvelles dispositions de l'OMS notamment sur l'éducation sexuelle qui paraît aux enfants, qui paraît parfois déconnectée du respect des âges et de ce qui est adapté à chaque âge, mais bon ça c'est un sujet beaucoup plus vaste.
C'est pas tellement l'OMS, hein, c'est surtout l'UNESCO qui a fait beaucoup
L'UNESCO peut-être.
d'études. Et là, j'ai témoigné, mais ça, ce n'est pas dans le témoignage, c'était dans l'enregistrement. Moi, par exemple, j'étais un petit garçon à 4-5 ans, tout blond, les gens me faisaient plein de bisous, et ma mère a compris qu'il y avait un danger sur moi. Et elle m'a fait intuitivement l'explication que certaines personnes, et des hommes en général, pouvaient s'approcher de moi en n'ayant pas l'intention de me faire un simple bisou. J'avais bien compris de quoi elle me parlait. Et l'UNESCO, dans le 54 études, disons, c'est promeut l'éducation sexuelle des enfants et particulièrement des petites filles dès l'âge de 4-5 ans, plutôt 5 ans, de façon à ce qu'elles sachent de quoi il s'agit, avec un langage adapté à une enfant de 5, 6, 7 ans, et qu'elle ne soit pas dépendante de quelqu'un qui lui fasse miroiter des choses ou qui l'éblouit ou autre, et qu'elle soit, il ou elle, mais souvent elle, soit en danger. Et moi, ça m'a sauvé parce que j'ai eu quelquefois des personnes dont j'ai tout de suite compris que leur intention n'était pas pure, n'était pas saine, et je suis parti à une vitesse tellement grand V qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Et donc, c'est pour ça que je comprends très bien ce qu'a fait l'UNESCO. En éduquant, tôt, on protège.
C'était donc Philippe Levaux, merci d'avoir été avec nous. Vous qui êtes donc à la fois sur le documentaire Netflix, sur Raël, et puis invité sur diverses émissions comme TPMP, un peu le chouchou du moment des médias. Merci de ce moment passé avec nous, des éclaircissements qui ont été donnés.
Merci beaucoup et bonne continuation.
Au revoir.
Au revoir.